Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin, the moment you come into view. Chances are you think that I'm in love with you.
C'est un grand plaisir que j'ai aujourd'hui de recevoir un maestro. Oui, un maestro de tango. J'ai nommé Luis Bruni. Bonjour.
Bonjour.
Luis Bruni est très connu en France. Il donne des cours de tango, principalement à Paris, mais aussi ici en Normandie. Il a débuté du côté de Rouen. Et vous allez avoir le plaisir et l'honneur de pouvoir écouter son histoire, puisque, comme tous les invités de cette émission, il a choisi des objets, des photos, des senteurs qui vont ponctuer sa vie jusqu'à ce jour. Je voudrais aussi remercier, avant que nous démarrions cette émission, mon amie Elisa qui m'a présenté à Luis et qui m'a permis, tout comme Clara, de pouvoir le recevoir aujourd'hui. Luis Bruni, vous êtes né en Argentine, vous êtes né à Buenos Aires et c'est ce qui a conditionné évidemment le fait que vous êtes professeur de tango aujourd'hui. Est-ce qu'on dit professeur de tango ou est-ce qu'on dit maestro ?
Et on dit en général professeur. Maestro, c'est une catégorie que se le donne à quelqu'un qui il y a pas mal de parcours, pas mal d'expérience, pas mal d'années.
Non, vous avez juste 25 ans d'expérience, c'est pas assez, c'est ça ?
C'est pas assez. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, bon, je suis maestro, on va dire, pour la France. Pour être considéré maestro en Argentine, je suis assez jeune encore. Manque quelques, on va dire, 10 ans, 20 ans plus. Hein.
Alors, vous qui nous écoutez, eh bien, vous avez vu, hein, Luis Bruni a un fort accent argentin. Vous allez vous y habituer très bien au fur et à mesure. Vous allez voir, il articule très bien et cet accent, c'est toujours un délice d'entendre les accents à la radio. C'est aussi pour cette raison-là que je suis très heureuse qu'il soit là aujourd'hui. Vous enseignez donc le tango depuis 25 ans, Luis Bruni ?
Oui, j'ai commencé à ma ville où est-ce que je suis né. Je suis né à La Plata, la capitale de la province de Buenos Aires. Et j'ai commencé mon cours là-bas, à l'université. Et c'est une ville qui est à 60 km de la capitale fédérale, que c'est Buenos Aires même, hein. Et à Buenos Aires, j'étais assistant de ma prof à l'époque.
Et vous avez toujours fait du tango depuis tout petit ?
Pas vraiment. Mes origines de la danse, je viens de la danse classique. Hein, j'ai commencé la danse classique. Et le tango, c'était toujours présent en ma vie. Mais je me suis mis au tango. Vraiment début des années 90, j'ai commencé le tango fin des années 80, hein, autant que danseur classique avec des petites chorégraphies, et après je me suis mis au tango début des années 90.
Et vos parents dansaient le tango aussi ?
Non, mes parents sont à l'époque qu'il y a une coupure, parce que c'est mes grands-parents qui dansaient le tango, c'était danseur de tango, et l'époque de mes parents, c'était l'époque du rock and roll.
D'où cette coupure ?
C'est là, on va dire, moitié des années 50, au début des années 50, commence à apparaître le rock and roll très très fort. Et les jeunes étaient plus intéressés pour le rock que pour le tango.
Ah oui, c'était plus tendance.
C'est ça. Et c'est là qu'il y avait moins de jeunes qui s'intéressaient pour le tango. Ou dansaient le tango et le rock. Mais mes parents dansaient plutôt le rock.
Alors, votre père était comédien et votre mère était voyante. Elle tirait les cartes, mais vous avez une anecdote à nous raconter là-dessus à propos de la religion qui lui a fait comprendre que c'était pas bien.
Oui, ma maman, c'était sa profession jusqu'à le moment que la famille, il y a eu quelqu'un qui était malade, qui était proche à elle. Il commençait à approcher la religion. Il commençait à approcher la religion, lundi la religion, que ça, c'était pas accepté, la religion catholique, en tout cas à l'époque. Donc il a fait un choix de laisser sa profession pour être dans les normes de ce que demandait la religion catholique en ce moment-là, en Argentine.
Vous viviez dans un appartement sous les toits avec vos parents. Et puis, c'était un peu vétuste, voire même très vétuste. Et un jour, la toiture s'est écroulée. Et vous viviez comme ça, dans cet appartement, en attendant que le propriétaire veuille bien réparer.
Oui, ça c'est une chose que c'était assez marquant pour quand j'étais gamin. J'avais 9 ans. Et c'est ça que bon, il a basculé un petit peu la famille, parce qu'on a dû... laisser à mon petit frère à la maison de ma tante, qui était à 60 km de capitale, où est-ce que je suis né. Et ces périodes de ma vie, même avec toutes ces tensions que j'ai vues à la maison, m'a permis de prendre une énorme liberté. Dès le moment que mes parents étaient en train de travailler, moi j'ai resté pas mal de temps seul. Donc je partais avec mes copains à la rue. Pour m'amuser, pour rêver, en laissant un petit peu les études un peu de côté.
Vous avez quelque chose dans votre poche qui symbolise ce moment-là?
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ce sont des clés. Bon, ça symbolise la clé. La clé de la maison que mes parents m'ont donnée en tout ce temps-là qui n'était pas pour m'accueillir à la maison parce que j'étais en train de travailler. Me donner une clé que j'ai portée au cou comme ça avec
un ruban.
Un ruban. Mais souvent, ces clés-là, je l'ai oubliée ou je la perdais ou je ne sais pas où est-ce qu'elle partait. Entonces, moi, je arrivais devant la porte. J'attendais que quelqu'un m'ouvre la porte pour pouvoir accéder à l'immeuble. Et là, j'ai resté pas mal de heures, des fois, devant la porte.
Et pendant ces heures d'attente, vous élaboriez des choses dans votre tête, vous essayez de comprendre.
Et pendant ce temps, passait pas mal de choses pour ma tête, mais ce temps-là de rien faire me permettait de rêver. Et pendant beaucoup d'années, j'ai jugé ce temps-là comme un temps perdu, un temps que j'étais pratiquement sans abri, sans l'attention de mes parents, mais plus tard j'ai compris que ce temps-là, c'est essentiel pour construire ce que après, plus tard, j'allais devenir.
Et pourtant, vous vous sentiez un peu abandonné?
Et oui, parce que surtout en hiver, quand tombait la pluie, que c'était assez fort à Buenos Aires.
Hein. Oui, ça rigole pas la pluie là-bas. Hein.
Non, c'est pas la pluie d'ici en Normandie, qui sont des petits crachants. Non, la pluie d'hiver là-bas sont presque des pluies tropicales.
De mousson.
C'est ça, mais avec beaucoup d'humidité et de froid. Hein. C'est pas agréable d'avoir les chaussures mouillées en ce temps-là. Et en plus, quand on doit attendre pas mal de heures hein, devant la porte.
On va faire un grand écart. Puisque vous parlez de chaussures, il y en a une qui est posée sur la table. Oui, à vous qui nous écoutez, il y a une paire de chaussures sur la table. Eh bien, ce sont évidemment vos chaussures de tango.
Oui.
Vous pouvez les décrire parce que, en fait, quand vous les avez sorties du sac, je m'attendais évidemment à avoir des chaussures bicolores, les fameuses chaussures qu'on a tous dans la tête, l'image d'Épinal. Mais vous m'avez expliqué pourquoi ce n'était pas forcément celle-ci.
Non, les chaussures bicolores, c'est une chaussure... que s'ils sont utilisés, ou certains l'utilisent au tango, pour les spectacles, pour les shows, mais c'est une chaussure de bicolore qui vient plutôt des choses latines de Sud-Amérique, la salsa, des choses comme ça, qui en un point n'a rien à voir avec le tango. La vraie chaussure de tango, qu'est-ce que c'est? C'est pas ce qu'on utilise aujourd'hui, qui vient avec un marché économique autour du tango. Une vraie chaussure de tango, c'est une chaussure élégante, de ville.
Avec une semelle en cuir, surtout.
Avec une semelle en cuir, surtout. Surtout ça.
Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des gens qui nous écoutent là et qui ne savent pas et qui ne connaissent pas grand-chose au tango et qui peut-être confondent aussi le tango de salon et le tango argentin, alors que vous êtes enseignante de tango argentin, ces fameuses chaussures, elles ont une fonction particulière.
Oui, surtout les semelles en cuir permettent un contact au sol, permettent d'interpréter et se déplacer avec des différentes dynamiques. Et quand la musique nous demande de caresser le sol avec une semelle en cuir, on peut le faire. Si on a une chaussure, une semelle en caoutchouc, pas.
Ça rippe.
On reste accroché. Ça sont des choses qu'aujourd'hui, pas tout le monde les considère, mais beaucoup de mes profs, moi j'ai une petite anecdote en rapport à ça, j'étais un jour assis sur une table d'une balle avec un de mes profs, il dit de manière très grave, très sérieuse, presque comme un sacrilège, mais faisait voir qu'un des danseurs qui était en train de danser, mais il dit, mais regarde, Louis, c'est pas sérieux, en train de danser avec des chaussures, avec des semelles en caoutchouc. Comment peut danser bien quelqu'un qui danse comme ça?
Donc ceux qui dansent avec des tennis, faut oublier. Hein.
Oui, mais moi je les voyais un petit peu à l'époque. Moi j'étais adolescent, choses comme ça. Moi je ne les prenais pas tellement au sérieux. C'est un vieux qui est en train de parler, en train de nous critiquer. Mais après, avec le temps, j'ai compris. Même si tous les nouvelles générations, pour s'approprier du tango, ont dansé aussi en tennis. C'est là qu'est né, ça c'est on parle du tango traditionnel. Et le tango, on va dire que c'est le support de tout le tango. Mais toujours les nouvelles générations veulent évoluer le tango, veulent le moderniser. Même si plus tard, retourne au tango traditionnel. Et quand on veut l'évoluer, tout ça, on les danse, on a dansé. Moi, j'ai dansé aussi avec des chaussures militaires, aussi avec des borsegui, des tennis. On peut les danser de différentes manières. Mais c'est vrai, si on veut être plus libre dans le travail d'interprétation, c'est très important les chaussures. C'est très important.
On va écouter un premier morceau de musique que vous avez choisi, Louis. C'est vous qui allez nous le présenter et puis on va l'entendre ici et vous allez peut-être nous donner quelques clés de lecture parce que ça s'écoute pas n'importe comment le tango.
Non, c'est comme le tango, il faut l'apprendre à les déchiffrer, il faut l'apprendre à les lire comme un livre. On peut les lire de différentes manières. Un bon livre, un bon écrivain, on peut avoir de différentes lectures. On peut avoir une première lecture, une deuxième, une troisième, une quatrième. Interprétation de ces livres. Le tango, pareil. Bon, ce tango qu'on est en train d'entendre, c'est Oigo tu voz de l'orchestre de Mare. De Mare, c'est un grand artiste du tango, mais c'est appartenait à une grande famille de la culture argentine, parce que son frère, Lucio de Mare, c'était un grand cinéaste argentin. Cette orchestre, ce n'est pas n'importe quelle orchestre. C'est une orchestre parmi les orchestres qui sont des premières lignes au tango. Se trouvent des orchestres qui sont des premières lignes, mais de sélection. Ça veut dire pour les grands connaisseurs. Pourquoi ça? Parce que et la lecture que j'ai parlé tout à l'heure, là on a une orchestre avec un équilibre parfait. C'est comme quand on goûte un vin qu'il y a un équilibre parfait. Bon, cette orchestre on a un équilibre parfait parce que chanteur, mélodie et rythme se trouvent en un équilibre juste.
Hasta mi pena escondida, la luz y la vida de un rayo de sol. Vuelvo a escuchar el nombre mío en tu acento, sin descifrar si es la palabra que siento.
Bon, c'est ça, ce type d'orchestre, les choisis, les danseurs qui sont plus que des danseurs de l'eau, qui danse le tango pour passer un moment.
Sinon, les danseurs de l'eau
comme si c'était le menton, de la majorité. qui ne sont pas les initiés. Ça veut dire, ça, ce type de tango, les choisissaient à Buenos Aires les initiés, les maîtres des grandes catégories qui cherchaient une justesse avec la communication avec sa partenaire et en la gestuelle de chaque mouvement. C'est un tango qui se danse, on ne le danse pas dans le rythme comme d'autres tangos qu'on met un pied derrière l'autre dans le rythme de la musique, sinon on doit l'interpréter, on le doit danser en presque un retard. On doit écouter la musique pour après, en la gestuelle de le danseur, répond presque en écho à ces musiques-là.
C'est ça que vous enseignez à Spot Tango, c'est cette nouvelle association qui a vu le jour au Havre depuis assez peu de temps. Vous enseignez pas uniquement justement le fait de faire de jolis pas, de faire des gaichos, des boléos, le fait de faire un guidage fin et précis. Oui, tout ça c'est très important, évidemment. Mais vous enseignez aussi l'histoire de cette danse, la genèse du tango argentin.
C'est ça. C'est difficile. Bon, on peut s'approcher d'un tango pour des différentes raisons. Vous savez, pour son esthétique, pour son dynamique, pour ce que chacun dans son imaginaire les véhicule le tango. Mais c'est très difficile pouvoir arriver à danser, pas pouvoir arriver à boucher avec le tango. C'est pas la même chose boucher que danser. Arriver à danser, on arrive à danser pour qu'on commence à interpréter. Et ce n'est pas nécessaire, comme certains pensent, qu'il faut, même pour certains qui ne comprennent pas l'espagnol, les paroles, les mots, si ce chanteur qui est en train de chanter dans cette orchestre-là, même si je ne comprends pas les mots, je comprends la sonorité de ces mots. Ces sonorités véhiculent une sensation.
Et alors, vous qui nous écoutez, il faut quand même que je vous dise que quand Louise Bruni raconte ça, il a un sourire qui arrive, qui fait plisser ses yeux, et il frotte ses doigts là, l'un à côté de l'autre, à côté du micro. On sent qu'il a exactement la saveur de cette musique. Mais je vous ai interrompu, pardon.
Bon, c'est ça. C'est ça que si... Qu'est-ce qui se passe? Si on fait simplement le tango comme une danse de loisirs, c'est dommage. On détruit le tango. C'est pas une danse de loisirs, c'est ce que beaucoup de monde se trompe. Savez, on peut entrer, comme dire, bon, je vais faire une danse de loisirs, tata. Mais si vraiment on va rester et on va construire, il faut comprendre d'autres choses. Il faut...
Je comprends du coup pourquoi c'est si sérieux le tango. Moi qui ai pris quelques cours de tango pendant quelques années, je voyais des gens très sérieux et je me disais, mais ces gens se prennent au sérieux, alors que quand on fait de la salsa, on rit, on est... voilà, c'est plus ludique. En fait, c'est parce que c'est un truc très sérieux et que vous enseignez aussi l'esprit même de l'Argentine.
Oui. Et je vous corrige, c'est pas l'Argentine. Ça, c'est une chose. Quand on se dit tango argentin, c'est comme un label commercial qui s'est donné, s'est tamponné de Paris pour donner comme mettre une cache au tango. Mais le tango, on peut dire que le tango s'est développé et développé en précision. Après, bien sûr, que le tango existait en tout Buenos Aires et en certaines provinces de l'Argentine. Je dis en certaines parce que la seule province en dehors de Buenos Aires qui a développé et a participé au tango, c'est Santa Fe, Rosario. C'est un port très important. Ce sont les deux endroits. Des fois, quand on se parle de l'histoire du tango, on oublie de Rosario. On parle de notre cousin, notre frère, les Uruguayens, et l'Uruguay, hein, parce que si le tango c'est patrimoine pour l'UNESCO, c'est parce que c'est considéré que représente à deux pays, à l'Argentine et à l'Uruguay. Mais on oublie qu'en la création du tango, Rosario, il y a une histoire assez importante. Mais qu'on va plus en précision qu'en rapport à la danse, qu'en rapport à les styles, et à les chorégraphies, et au vocabulaire, et à ce qui est resté de ce qu'on se nourrit aujourd'hui, C'est pas de tout Buenos Aires, c'est de sont certains quartiers de Buenos Aires qui sont apportés.
Juste certains quartiers.
C'est ça.
Et du coup, en fait, l'idée du tango argentin, qui est une danse très sensuelle, etc., ça, par contre, c'est un mythe qui a été fabriqué à Paris.
C'est ça. Ça, c'est quand on commence à arriver les premiers artistes argentins à Paris, les premiers arrivent les musiciens.
1910
Et oui, un petit peu avant. Hein, avant c'est le premier enregistrement du tango à Paris s'est fait en 1906. Hein, après, petit à petit, commence à arriver la danse. Et avant de la première guerre, avant de la guerre del 14, déjà le tango, années 12-13, c'était la danse exotique pour excellence à Paris. Et par conséquence, comme Paris était un petit peu et l'umbril et culturel de tout le monde, hein, de toute l'Europe et de l'Amérique aussi, et d'autres pays aussi, c'est copié tout ce qui est passé à Paris. Entonces, aussi, le tango s'est diffusé d'autres capitales du monde à partir de... C'est peut dire que le tango, l'antenne de diffusion internationale du tango, c'est Paris. Sans Paris, on ne sait pas qu'est-ce qui serait passé avec le tango. Peut-être sans Paris, le tango mourait dans la banlieue de Buenos Aires.
Ah oui, à ce point-là.
Ah oui, ça c'est ma théorie. Et la théorie de certains historiens aussi.
Alors, donc vous enseignez le tango dans énormément de lieux. À Paris, évidemment, où vous êtes, d'ailleurs en France, vous êtes un maestro extrêmement réputé. Louise Bruni, quand on a dit votre nom, on a tout dit. Vous enseignez ici, donc, à l'association Spot Tango au Havre. Et bah, en fait, c'est très simple, hein, pour prendre contact pour celles et ceux que ça intéresse.
Au Havre et Honfleur.
Et Honfleur, les deux, oui. C'est vrai. Il y a une adresse mail, spottango@gmail.com, spottango en un seul mot tout attaché, @gmail.com. Il y a aussi une page sur Facebook. Et est-ce qu'il faut avoir des capacité particulière pour danser le tango? Est-ce qu'il faut être jeune? Est-ce qu'il faut être grand? Est-ce qu'il faut être petit? Est-ce qu'il faut être mince? Voilà. Quelles sont les spécificités?
Non, c'est ça la richesse du tango, c'est qu'il y a des styles, des manières différentes de travailler le tango, d'exprimer le tango ou de créer son tango selon son besoin, selon ses possibilités, selon son âge.
C'est-à-dire que quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de danser et qui a 65 ou 70 ans, peut venir danser le tango.
Bien sûr, bien sûr. Comme quelqu'un qui est très sportif, jeune et dynamique aussi. Ça veut dire que les bases sont à peu près de démarrage à peu près la même, mais l'évolution, où est-ce qu'on va aller, ce n'est pas la même.
Et oui.
Parce que quelqu'un qui est sportif, jeune, va vouloir faire peut-être, si on vit, un tango plus dynamique, plus exigé physiquement, avec beaucoup de figures, avec des jeux d'axes
et différentes choses.
Des jeux d'axes.
Des jeux d'axes.
Hein?
Okay.
Des colgadas, des élastiques, des choses qui sont assez dynamiques, assez exigeantes pour le corps.
Oui.
Que c'est partie du tango aussi, et du vrai tango.
Oui.
Comme quelqu'un qui peut-être il a une possibilité d'un corps de mobilité très réduit, aussi peut danser très bien le tango.
Et se faire plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, parmi les auditeurs qui nous écoutent, ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 50 ou 70 ans, peuvent, hommes ou femmes, venir apprendre à danser le tango.
C'est ça. C'est découvrir un univers. C'est découvrir à soi-même. C'est découvrir à soi-même aussi avec l'acceptation de soi-même et comment je entre en communication avec l'autre. De différentes façons.
Et oui, alors, en fait, c'est ça. C'est avant tout une communication entre le danseur et la danseuse. Même si c'est le danseur qui dirige, c'est le danseur qui invite au voyage et la danseuse qui accepte de suivre, finalement, de se laisser guider. Mais ça n'est pas une marionnette.
C'est ça. Je prends le dernier mot. Vous avez dit, les danseurs qui dirigent, les danseurs qui invitent. Je reste avec le dernier. C'est plutôt celui qui a la responsabilité, qui, en ligne générale, c'est l'homme, invite la femme, il a le droit d'accepter ou pas l'invitation. C'est important, ce qui détermine l'abouti de ces danses-là, c'est comment la danseuse s'approprie de cette invitation. c'est pas l'homme qui, bon, en un petit tango, en un petit niveau, on peut dire que l'homme guide, la femme suit, pour simplifier. Hein? On reste dans le tango loisir, une chose comme ça.
Oui.
Mais le tango, plutôt pour l'initier, c'est plus subtil. Et l'homme en train d'inviter, il y a l'acceptation, il y a l'appropriation de celui qui suit. Peut-être, en général, l'ignée générale, c'est une femme. Mais aussi, il y a des femmes qui sont guideuses ou invitent. Il y a deux femmes qui peuvent danser ensemble, deux hommes qui dansent ensemble. Aujourd'hui aussi, ça passe ça. C'est lui qui se trouve dans le rôle de qui initie l'invitation. Ce qui détermine tout, c'est celui qui accepte et complète le monde. C'est plus subtil, c'est plus complexe ça.
Nous, en France, on a souvent cette image que le tango, en Argentine, c'était dansé d'abord par les hommes entre eux. Mais c'est faux.
C'est très faux. C'est une idée simplifiée de les premiers historiens que beaucoup, même aujourd'hui, j'ai vu pas mal de livres faits pour des Français qui veulent faire un livre de tango, des personnes qui partent des universités, des choses comme ça. Ils prennent des choses sans beaucoup chercher. C'est non, le tango, c'est pratiqué entre hommes. C'est pratiqué entre hommes.
C'est pour s'exercer ensemble.
Pour s'exercer. Et après, la danse, c'était homme-femme.
Homme-femme, parce que c'est une danse de couple.
C'est ça. C'est une danse de couple qui demande beaucoup d'entraînement individuel, de partir de les deux pour après danser en couple.
Alors, on peut être un bon tanguero ou tanguera au bout de 5 ans si on est doué, plus souvent 10 ans. Pour ma part, j'ai fait du tango pendant quelques années. J'étais pas arrivée justement à ce très bon niveau. Mais par contre, je me souviens très bien que c'était un voyage, que c'était un moment incroyable et que j'ai même fait des danses avec un danseur où on se touchait quasiment pas et où malgré tout, tout était initié par le danseur et le fait de suivre ce mouvement était vraiment extraordinaire, incroyable. Le tango, c'est vraiment une danse incroyable, magnifique.
Oui, c'est une danse qui passe à travers le corps, mais à différence d'autres danses de couple, ne reste pas dans le corps, en le contact charnel. Ça veut dire, c'est à travers le corps, mais c'est au-delà.
À travers le corps, vous dites, et avec ce merveilleux accent que vous avez, Louise Bruni, eh bien, on peut entendre le cœur aussi. On n'a pas eu du tout la possibilité d'écouter la deuxième musique.
C'est dommage.
Mais par contre, on va la mettre en générique de fin, exceptionnellement. Je rappelle que Spot Tango, c'est une association qui est ici basée au Havre et aussi à Honfleur, et que vous pouvez les contacter pour prendre des cours en envoyant un mail à spottango@gmail.com. Merci beaucoup Louise Bruni d'avoir été notre invitée aujourd'hui dans Portrait. Merci maestro.
Merci à vous. La casita de mis viejos por Juan Carlos Cáceres.
Barrio lejano de mi ayer, que en un triste atardecer a la esquina vuelvo bien, vuelvo más viejo. La vida me ha cambiado, en mi cabeza un poco de plata me ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador comprendí mi mal de vida y cada beso lo pagué con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos. Locuras juveniles, la falta de consejos. Ahí en la casa uno de cruel silencio raño y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoce.